Chapitre 5 Le bien pour le mal. Un mois s'est écoulé depuis la scène que nous venons de rapporter. La lutte s'est engagée, ardente, implacable, comme toute lutte entre concitoyens. Le jour de sa visite au château, le docteur avait accompli sa menace. Il était parti pour Redon avec Sainte. Jean Brande aussi s'était souvenu de sa promesse. Et quand le citoyen Saulnier revint le lendemain, escorté d'un détachement de bleus, il vit de loin fumer les derniers débris de sa maison. Sainte pleura sur la demeure où s'était passée son enfance, où elle avait reçu le dernier soupir de sa bonne mère qu'il aimait tant, mais d'aucune pensée de vengeance n'entra dans son cœur. Il n'en fut pas de même du médecin bleu qui, dans sa colère, jura la mort de Jean Brande et s'engagea volontaire pour traquer son ennemi. Bientôt les environs de Saint-Yon offrirent une désolation profonde. Le bourg lui-même était abandonné, et c'est à peine si quelques femmes et quelques enfants se montraient parfois dans la longue rue déserte. Ces malheureux ne faisaient à Sainte aucun reproche, mais quand ils passaient près d'elle, ils ne lui envoyaient plus leur cordial et joyeux salut. Son père n'était-il pas l'agent fatal qui avait amené les républicains dans ses contrées? Sainte ne discontinuait point pour cela sa vie de bienfaisance. Ce qu'elle avait, elle le donnait aux tristes débris de la population du bourg. On recevait ses bienfaits parce que la misère ne marchande pas, mais on les recevait sans gratitude, et il semblait que tout son généreux dévouement depuis désormais compenser la haine qu'on portait au médecin bleu. Celui-ci avait choisi l'une des cabanes abandonnées pour y établir sa demeure. Cette cabane, par un singulier hasard, était justement celle de Jean Branle, ci-devant Bedeau, son mortel ennemi. Du reste, le citoyen Saulnier n'y faisait que de courtes apparitions. Il poursuivait son œuvre de colère avec une passion inouïe, et se montrait toujours le plus ardent à la poursuite des insurgés. Souvent, Sainte restait seule au logis durant de longues semaines, sans nouvelles de son père. Quand il revenait, elle se précipitait à sa rencontre, joyeuse de voir ses inquiétudes terminées, espérant qu'enfin son père ferait trêve à cette lutte acharnée. Mais il n'en était rien. Le médecin bleu recevait avec une distraite indifférence les caresses de sa fille, puis il repartait en toute hâte. Les chouans, cependant, étaient loin d'avoir toujours le dessous. Déjà plusieurs fois, des renforts étaient venus de Redon, mais la victoire restait indécise. Quand les chouans étaient obligés de céder le champ de bataille aux troupes régulières, ils disparaissaient tout à coup pendant quelques jours. Nul ne savait quelle retraite les dérobait alors aux recherches les plus actives. Puis au bout d'une semaine, on les voyait revenir plus nombreux et plus déterminés que jamais. Les femmes et les enfants qui restaient à Saint-Yon semblaient avertis de tout ce qui se passait au dehors et faisaient les plus étranges récits. On disait que le général des Chouans était une jeune fille de 13 ans, belle qu'on ne vit jamais de beauté, et plus intrépide que le plus brave des soldats. Et comme Sainte, dans sa naïve curiosité, s'informait de son nom, on lui répondit avec l'emphase propre aux paysans de la Haute-Bretagne « Des gens l'ont connu et fréquenté, qui n'étaient pas dignes de dénouer les cordons de ses souliers. Cela l'appelait Marie Brande, mais son vrai nom est Mademoiselle de Rieux, marquise d'Ouessant, d'Assérac, de Sourdéac et de Châteauneuf de la Mer. » Sainte s'émerveillait de ses récits, mais elle n'avait garde d'envier le sort brillant de son ancienne compagne. Elle se souvenait des paroles du bon prêtre et n'ambitionnait point d'autre rôle que celui que l'abbé de Kernas lui avait autrefois tracé en trois mots « paix, conciliation et pitié ». Comme elle aimait encore Marie et que Marie était en péril, elle unissait dans sa prière de chaque jour son nom à ceux de René et de son père. Un jour, il y avait longtemps que le médecin bleu n'avait paru à la cabane. Sainte revenait de la forêt où s'était dirigée sa promenade solitaire, lorsqu'un fracas soudain retentit derrière elle. C'était le bruit d'une vive fusillade. Elle tourna la tête et vit une cinquantaine de chouans franchir le talus du chemin et s'enfuir, poursuivis par un nombre double de républicains. Ils passèrent rapidement auprès d'elle. « Mais voici un otage !» s'écria l'un d'eux. « Allez, saisissons la fille du médecin maudit !» Mais les fuyards étaient presque tous des gens de Saint-Yon. Ils passèrent, et plusieurs même soulevèrent leur chapeau en disant « Dieu vous bénisse !» Quelques-uns pourtant, étrangers au bourg, s'arrêtèrent, ayant à leur tête celui qui avait parlé le premier, et qui n'était autre que Jean Brandt, revêtu de son costume de capitaine, c'est-à-dire portant le feutre à plumes, la veste à revers et la ceinture blanche. « Saisissons-la !» répétèrent-ils. Sainte voulut fuir, ses jambes fléchirent. Elle eût été bien vite atteinte si une seconde décharge des bleus, qui avaient franchi le talus à leur tour, n'eût mis le trouble parmi ceux qui la poursuivaient, et ils s'enfonçaient rapidement dans les taillis qui bordaient d'un côté de la route. Mais la décharge avait eu un autre résultat. Jean Brandt, frappé de deux balles, était tombé aux pieds de Sainte. « Juste Dieu, dit-il, je m'en compte. » Les bleus, sans se donner le temps de recharger leurs armes, s'étaient précipités sur les traces des fuyards. Quand ils eurent disparu, Jean Brandt se releva en chancelant. Ses traits exprimaient l'étonnement le plus profond. « Mademoiselle, murmura-t-il, voyant que Sainte le soutenait, « saviez-vous que c'est moi qui ai mis le feu à la maison de votre père ?»« Je le savais, répondit Sainte, appuyez-vous sur mon bras. » « Et pourtant, reprit Jean Brandt, vous avez laissé passer les bleus sans leur dire « Le voilà, tuez-le, vous vous êtes placé devant moi pour me cacher, et maintenant vous me soutenez comme si j'étais votre ami. »« Venez, interrompit Sainte, votre sang coule, je vous panserai. » « Et tout à l'heure encore, continua Jean Brandt, je proposais à mes hommes de vous saisir. Vous m'avez entendu, n'est-ce pas ?»« Oui, je vous ai entendu. Allez, hâtons-nous, ils vont revenir. » « Mademoiselle Sainte, je pensais qu'au ciel seulement il y avait des anges. » On entendit au loin un nouveau bruit de fusillade. « Venez, venez !» s'écria Sainte en l'entraînant. Jean Brandt se laissa faire. En marchant, il levait sur sa jeune protectrice un regard de reconnaissance et d'admiration. Sainte allait avec précaution et le soutenait de son mieux. Et après bien des efforts, ils arrivèrent à la cabane, et Jean Brandt se coucha dans son lit, qui était devenu celui du docteur. Sainte avait souvent aidé son père dans ses pansements. Intelligente et adroite, elle avait retenu ce qu'il fallait faire dans ces occasions, et le blessé se sentit bientôt assez soulagé pour chercher le sommeil. À peine était-il endormi que les bleus arrivèrent. Sainte fit tomber autour du lit l'épais rideau de serge et ouvrit la porte aux soldats de la République. Si Jean Brandt s'éveilla pendant l'heure qui suivit, il dut se croire l'objet d'une étrange vision. Les républicains s'étaient attablés sans cérémonie et faisaient fête au vin du docteur. Quand ils eurent bien bu, ils se retirèrent et laissèrent la pauvre Sainte accablée de tristesse. Nul parmi eux n'avait pu lui donner des nouvelles de son père. Mais Jean Brandt ne s'éveilla que le lendemain, ignorant le danger qu'il avait couru pendant son sommeil. Sa première parole fut néanmoins un cri de gratitude. Tandis que Sainte le pensait, elle sentit une larme tomber sur sa main. Jean Brandt pleurait. « Mademoiselle Sainte, dit-il, si Dieu m'exauce, Je vous vaudrai ça quelque jour. Mais vous ne me devez rien, répondit-elle. Et si vous voulez me faire une promesse, je serai trop payé. Laquelle ? S'écria Brown avec vivacité. Le hasard peut vous mettre un jour en face de mon père dans un combat. Épargnez-le en souvenir de moi. Je vous le jure. Merci. Sainte avait fini le pansement. Elle s'assit auprès du lit et mit sa tête entre ses mains. Alors seulement Brand remarqua sa profonde tristesse et c'eût été merveille pour un observateur que de voir la sympathique mélancolie qui envahit tout à coup le rude visage du proscrit. Jean Brand était un de ces hommes énergiquement trempés qui surgissent au jour des révolutions. Simple ou dépourvu de toute espèce d'instruction, mais possédant un coup d'œil rapide autant que sûr, et cet imperturbable sang-froid dans le danger qui est la première vertu d'un chef de partisan, il avait gagné la confiance des nobles qui commandaient la chouannerie. C'était lui qui, avec M. de Vauduit, dirigeait la bande des environs de Saint-Yon, composée en majeure partie des anciens vassaux de la maison de Rieux. Jean-Bran pouvait être cruel par circonstance ou par nécessité, mais son cœur, fort dans le bien comme dans le mal, était capable d'une reconnaissance sans borne. La conduite de Sainte l'avait touché plus que nous ne saurions dire. Cette chose sublime que commande la religion chrétienne et que pratiquent si peu de chrétiens, le pardon des injures, semblait au choix en demi-sauvage un acte de vertu surhumaine. Il avait fait le mal, on lui rendait le bien. Ce n'était là qu'accomplir strictement la lettre de la morale évangélique. Mais dans les campagnes bretonnes, la loi du talion est en vigueur, et ceux-là seulement, qui sont trop faibles pour se venger, font fi de la vengeance. Jean Brand suivait donc avec sollicitude la mélancolique rêverie de l'enfant qui venait de lui sauver la vie, et se sentait venir à l'âme une tendresse croissante. « Oh oui, murmura-t-il involontairement. S'il veut me tuer, il me tuera, mais moi, je le respecterai, comme s'il était mon propre frère. » Sainte leva sur lui un regard voilé de larmes. « Pourquoi pleurez-vous ? » demanda-t-il. « Hélas, répondit Sainte, je vous crois sincère, mais est-il temps encore ? Il y a 15 jours que j'ai eu de nouvelles de mon père. » « Nous en aurons, s'écria l'ancien Bedeau. Je me charge d'en avoir. Fallut-il vous conduire jusque dans notre retraite, dont nul ne connaît le secret, vous aurez des nouvelles du médecin bleu. Et tenez, me sens fort. Peut-être pourrons-nous partir sur le champ. » Il voulut se lever, mais, affaibli par la grande quantité de sang qu'il avait perdu, il ne put y réussir et s'affaissa sur son lit. « Merci, dit Sainte en souriant doucement. Quand vous serez rétabli, nous partirons. » Chapitre 6 Le trou aux biches. 8 jours se passèrent et aucune nouvelle du docteur ne vint calmer l'inquiétude de Sainte. Grâce à ses soins, Jean Brand était complètement rétabli. « Mademoiselle Sainte, dit-il un matin, je vais retrouver mes frères. Le secret de notre retraite fait toute notre sûreté, mais je me confie en vous, comme si vous étiez ma fille. Voulez-vous venir avec moi ? » « Aurais-je des nouvelles de mon père ? » demanda Sainte. « Nous chercherons, nous interrogerons les gars, depuis le premier jusqu'au dernier. Quant à moi, je ferai de mon mieux, voilà qui est sûr. » « Partons donc, dit Sainte. Mais la route est longue, sans doute. Oh, pas si longue que vous pensez. Allez, venez. » Les dernières maisons du bourg de Saint-Yon touchent à un terrain dépourvu d'arbres et dont une portion est maintenant défrichée. C'était alors une lande aride, s'étendant à perte de vue, entre la lisière de la forêt et les rivages du marais de l'Ouest. Toute cette lande était couverte d'ajoncs vigoureux et touffus qui s'élevaient un peu au-dessus de la stature d'un homme. De tous côtés, comme il arrive d'ordinaire sur les landes où nulle considération ne force le piéton à s'écarter de la ligne directe, ce taillis épineux était percé de 1000 sentiers divergents qui se coupaient et s'entrechevêtraient, de telle sorte que le fameux fil d'Ariane eût été une ressource parfaitement insuffisante pour se diriger au milieu de cet inextricable labyrinthe. Mais, à défaut de fil, Jean Brandt, qui s'y était engagé avec Sainte, avait une connaissance exacte et minutieuse du pays. Aussi allait-il d'un pas ferme, changeant de sentier tous les 10 pas, mais ne montrant jamais une ombre d'hésitation. Au bout d'une demi-heure de marche, il s'arrêta. « Nous voici arrivés, » dit-il. Sainte regarda autour d'elle avec surprise. Elle connaissait ce lieu pour y être venue souvent dans ses promenades, mais il n'y avait jamais rien découvert qui pût servir d'abri à des êtres humains. Cet endroit formait à peu près le milieu de la lande. Le terrain s'y affaissait circulairement, de manière à former un large amphithéâtre ou entonnoir à pente insensible, dont le centre était marqué par un menhir. Le sol, uni et sans mouvement aucun, ne permettait pas de croire à l'existence d'une caverne cachée, et l'absence complète d'arbres éloignait toute idée d'un campement en plein air. « Mais c'est le trou aux biches, » dit Sainte, en donnant à ce lieu le nom sous lequel il était désigné dans le pays. « C'est plutôt le trou aux choix, » répondit le bedeau. « Du moins, à l'heure qu'il est, vous y trouverez plus de choix que de biches. » Sainte jeta un nouveau regard aux alentours, mais elle ne vit rien encore. Jean Brand écarta alors avec précaution les branches épineuses d'un gigantesque ajon. « Passez !» dit-il. Sainte obéit. Aidé par le chouan qui, avec une adresse singulière, la préserva de toute piqûre, elle franchit le premier obstacle et se trouva dans un nouveau sentier, tortueux, étroit, et le long duquel on ne pouvait marcher qu'en se courbant, parce que les ajoncs se rejoignaient à 4 pieds du sol et formaient une manière de buisson impénétrable à l'œil. On serait passé 20 fois devant la touffe d'ajoncs qui masquait ce sentier sans soupçonner son existence, et ce n'était là, cependant, pour ainsi dire, que le premier anneau de la chaîne de précaution dont s'entouraient les insurgés royalistes. Jean prit la main de Sainte et lui fit descendre la pente douce de l'amphithéâtre. Ils arrivèrent ainsi au pied du menhir, dont la tête grise s'élevait à plusieurs toises de terre. Jean fit le tour et toucha par 3 fois, avec la crosse ferrée de son fusil, une pierre rugueuse et carrée qui semblait scellée dans le sol. Au 3e coup, la pierre, tournant sur une charnière intérieure, fit bascule et laissa découvert l'orifice d'un large trou. « Mort !» cria une voix souterraine. « Bleu !» répondit Jean Brand, achevant ainsi le juron caractéristique qui servait de mot de passe. La pauvre Sainte s'était reculée avec effroi en voyant la gueule béante de la caverne. Le chouan la rassura tout doucement, et tous deux commencèrent à descendre. « Mettez vos fusils de côté, mes braves !» dit Jean Brand, en voyant 2 sentinelles en blouse et en sabots croiser les armes au bas de l'escalier. « Le bedeau !» s'écrièrent en même temps les 2 chouans. « Le bedeau qui revient !» Et de tous les coins de la caverne, un hourra général et joyeux répéta « Le bedeau !» Sainte descendait en ce moment la dernière marche. En tournant l'angle saillant de l'escalier, elle se trouva tout à coup dans une immense salle, brillamment éclairée et remplie d'hommes armés. Plus morte que vive, elle se pressa timidement contre son conducteur. La caverne, de forme semi-circulaire et dont les deux bouts se repliaient légèrement, de manière à figurer un croissant, était entourée d'une litière de paille, couche commune où s'étendaient les chouans lorsque l'heure du sommeil était venue. Au-dessus de cette litière, une sorte de râtelier contenait l'arsenal de rechange de la bande. C'étaient des armes de toutes sortes, de toutes formes, et on peut le dire de toute provenance. À côté d'une rapière droite, à lame triangulaire, pendait un sabre recourbé à pointe de damas, dont la poignée, bizarrement historiée, annonçait une origine musulmane. Auprès d'un tromblon de cuivre, à la gueule évasée comme le pavillon d'un corps de chasse, se dressait la longue et fluette canardière du chasseur des marais. Puis venait un luxueux fusil à deux coups, arme de gentilhomme, qui avait mis à mort sans doute plus d'un vieux loup, plus d'un fort sanglier. Puis encore un mousquet massif, un canon blanc et lisse, trophée conquis sur un pauvre milicien de la République. Au bout de ce magasin, sur un affût, une petite pièce de 2 livres de balles était soigneusement recouverte de son étui de serge. Ce petit canon ne sortait jamais du souterrain, c'était l'artillerie de défense. Sainte ne vit tout cela, comme on le pense, que fort imparfaitement. L'aspect de tous ces hommes à figure farouche l'effrayait. Elle osait à peine lever les yeux et avait rabattu son voile sur son visage. Bedeau, mon ami, dit un officier supérieur en costume, dans lequel Sainte reconnut M. de Vauduit. Nous avions presque fait le sacrifice de ta précieuse personne, mais d'où viens-tu? Et qui nous amènes-tu là? Oh, c'est trop de questions, répondit Jean-Marc, et j'ai pas le temps d'y répondre. Où est mademoiselle? « Dans son boudoir, » répliqua M. de Vauduit en ricanant. Jean Brun traversa la foule, écartant à l'aide de ses coudes vigoureux ceux que la curiosité portait à s'approcher trop près de Sainte. Arrivé au bout de la caverne, il poussa une porte et entra dans une petite cellule voûtée où Marie de Rieux était seule. « Ah ah !» fit Marie en prenant un air de souveraine, il ne lui allait point trop mal. « Notre fidèle père nourricier, sois le bienvenu, Jean-Brun, je craignais de ne plus te revoir. » Elle tendit la main avec une affectation théâtrale et le bedeau la porta à ses lèvres. « Notre demoiselle, dit-il, voici mademoiselle Sainte, qui m'a sauvé la vie et qui voudrait savoir des nouvelles du médecin bleu. « Sainte !» s'écria la hautaine enfant en cachant une émotion réelle sous un sardonique sourire. « Alors qu'elle soit aussi la bienvenue. Mais est-ce bien chez nous qu'il faut venir pour chercher des nouvelles du médecin bleu ?»« Sauf respect, » commença Borde, « en interrogeant nos hommes. » « C'est bien, interrompit Marie, interroge qui tu voudras et laisse-nous seuls. » Bond salua et se retira aussitôt. Les deux jeunes filles ne s'étaient point vues depuis le jour où la croix, surmontée d'un drapeau blanc, avait été relevée au carrefour de la forêt. Il y avait de cela plusieurs mois. Sainte fut surprise et affligée du changement que ce court espace de temps avait opéré sur les traits de sa compagne. Marie était toujours belle, mais une mate et maladive pâleur avait remplacé les fraîches couleurs qui brillaient autrefois sur sa joue. Son œil était entouré d'un cercle bleuâtre, et il y avait une tristesse profonde sous la méprisante ironie de son sourire. Elles restèrent quelques minutes en face l'une de l'autre. Marie semblait faire une comparaison pénible entre le doux visage de Sainte et ses traits à elle, ses traits d'enfant déjà fanés et presque flétris. Enfin, elle rompit le silence. « La fille du médecin bleu, » dit-elle, sans abandonner son ton de froideur, « s'est donc enfin souvenue de son ancien ami. » « Mais elle ne l'a jamais oublié, » répondit Sainte avec douceur. « C'est de sa part bien de la bonté. Et n'avez-vous pas tremblé, Sainte, à l'idée de confier votre vie à des brigands tels que nous ?» Marie appuya sur ce mot avec une singulière emphase. On voyait que la pauvre enfant prenait fort au sérieux sa position d'héroïne. Sainte songea peut-être à cette fable que le bon La Fontaine a intitulée « La mouche du coche », mais elle n'en fit paraître rien et répondit simplement « Je suis sous la sauvegarde de Jean Brande. »« Pauvre sauvegarde, ma fille. Jean Brande, est-ce que tout le monde est ici, mon serviteur ?» Un mot de moi, un geste, moins que cela te ferait rentrer sous terre. » Sainte baissa les yeux, elle se sentait prise de pitié. « Oui, vous êtes bien puissante, Marie, dit-elle, mais êtes-vous heureuse ?» Cette question fit tomber comme par enchantement le masque au moyen duquel Marie voulait cacher son naturel franc et sincère. Elle regarda un instant Sainte d'un air indécis, puis se levant d'un saut, elle lui jeta les bras autour du cou et se prit à pleurer. « Sainte, ma bonne sainte, dit-elle, que je voudrais être à ta place. » La fille du docteur lui rendit son étreinte, et toutes deux, les bras enlacés, s'assirent côte à côte. « Ainsi, dit Sainte, tu n'es pas heureuse ?»« Je ne sais. » Parfois, des idées de gloire traversent ma cervelle. Je me sens le cœur d'un homme et ma main trouve plaisir à caresser la garde d'une épée. C'est le sang de Rieux qui parle alors. En cet instant, j'irais à la mort comme on court à une fête. Mais d'autres fois, quand je me vois, pauvre enfant que je suis, au milieu de tous ces hommes dévoués mais grossiers et toujours prêts à lâcher la bride à leur passion brutale, faut-il te le dire, ou j'ai peur ? Et elle cacha sa tête dans le sein de son amie. Oh, reprit-elle après un moment de silence, ce n'est pas la mort que je crains. Mon bras est faible, mais mon cœur est fort. Ce qui me ronge, c'est le doute. Parfois, je crois surprendre un sourire de pitié sur les lèvres de mes hommes. Parfois, ils me répondent avec cet air de condescendance que prennent les bons serviteurs en faire l'enfant gâté d'un maître qu'ils aiment. Admirent-ils ma précoce énergie? Raillent-ils mes inutiles exploits? Suis-je grande ou suis-je ridicule? En prononçant ce dernier mot, elle lança la dérobée vers Sainte un regard plein d'anxiété. Celle-ci fut quelque temps avant de prendre la parole. Quand elle rompit enfin le silence, ce fut d'un ton grave, presque sévère. « Et c'est là tout ce que vous craignez, » dit-elle. « N'est-ce pas assez ? Un jour, le curé de Saint-Yon, que vous respectiez autrefois, Marie, oui, mais que je respecte encore, je le souhaite, un jour donc, le saint prêtre me dit ces paroles qui se sont gravées dans ma mémoire. En ce temps de luttes impies, ma fille, le rôle d'une femme doit être le rôle de paix, de conciliation et de pitié. Ne vous a-t-il jamais rien dit de semblable, Marie? Moi aussi, fait, je crois me souvenir. Mais je trouve injuste et cruel ces prescriptions qui font de la femme un être passif, un être nul. Nul pour le mal et tout-puissant pour le bien, pensez-vous que ce soit un mauvais partage que le nôtre? Je ne sais, dit Marie en soupirant. Peut-être as-tu raison. En tout cas, pour reculer, je suis trop avancée. Mais est-il jamais trop tard pour reconnaître ses torts? Dit Sainte. « Pour toi, pour tout autre, non, mais je m'appelle Derieux, et suis seul pour soutenir la gloire de ma race. Adieu, sainte, tes paroles amollissent mon cœur, et j'ai besoin d'un cœur de bronze. Adieu. » Marie de Rieux déposa un baiser sur le front de sainte et la congédia d'un geste. Quand elle fut seule, elle tomba dans une rêverie profonde et murmura machinalement « Paix, conciliation, pitié. C'est là le rôle d'un ange et non d'une créature mortelle. Et pourtant, c'est celui de sainte. » Cette dernière rentra dans la caverne et chercha des yeux Jean Bran, qui vint aussitôt à sa rencontre d'un air triste. « J'ai interrogé tout le monde, dit-il, et personne n'a pu me répondre. Oh, n'y a-t-il plus d'espoir ? Murmura sainte accablée. « Notre bande n'est pas seule, répondit le bedeau. J'irai, je m'informerai. » « Oh, merci, merci, monsieur Brandt !» s'écria sainte. « Dieu vous récompensera. »« Pensez-vous donc, dit le paysan en montrant sa poitrine, que ceux que vous appelez des brigands n'ont pas là de cœur pour aimer ce souvenir ? J'ai contracté envers vous une dette, mademoiselle, et je vous la paierai avant de mourir. » Chapitre 7. La dette de Jean Brandt. Sainte revint tristement à la cabane et passa encore une semaine en proie à toutes les tortures de l'attente. Un jour, Jean Brun arriva tout essoufflé. « Oh, une chopine de cidre, mademoiselle, si c'est un effet de votre bonté, » dit-il en tombant épuisé sur un banc. Sainte se hâta de lui servir à boire et le bedeau avala la chopine d'un seul trait. « Ah !» fit-il avec un long soupir de soulagement. « Un morceau de lard et du pain maintenant, mademoiselle, si c'est pas trop demandé. » Sainte mit du pain et du lard sur la table. Jean Brun, avec une rapidité merveilleuse, fit disparaître le tout en un instant. « Ah ! Ah !» dit-il encore en avalant la dernière bouchée. Puis il ajouta indolemment, « Il y a 3 grands jours que j'avais pas mangé, mademoiselle. »« Est-il possible ?» s'écria sainte. « Voyez, reprit Jean, qui se leva et montra son costume d'un geste mélancolique. Son habit d'officier royaliste était réduit à l'état de haillon. Son écharpe blanche, déchirée et noircie par la poudre, pendait en lambeaux autour de son corps. « Qu'est-il donc arrivé ?» demanda sainte. « Oh, de tristes nouvelles pour les amis du roi, mademoiselle. Voilà 3 jours que nous nous battons, ou plutôt que nous sommes battus. Général S est en campagne, le maudit bleu. Nous étions 1 contre 4, ah, mademoiselle sainte. Il y a bien des corps morts à 7 heures sur la lande. » « Et mon père ?» s'écria la jeune fille dans son égoïste tendresse. « J'allais y venir, mademoiselle, et je vous demande pardon de vous avoir parlé de nous. Oui, il y a des nouvelles. De votre père d'abord, et puis d'un autre encore. Mon frère ? Oui, bien touché, c'est du René, en effet, qu'il s'agit. Mais parlez, monsieur Brandt, par pitié, parlez. Je suis venu pour cela, mademoiselle, et je viens de loin. » D'abord, il faut vous souvenir que je vous dois quelque chose et que j'avais promis de payer ma dette avant de mourir. Je l'ai payée, mademoiselle, et tout à l'heure, je vais aller mourir. Ça vous étonne ? Écoutez, il y a 3 jours, un corps de Vendéen nous arriva. Les pauvres diables étaient dans un piteux état, car depuis la Loire, ils avaient été poursuivis par les Bleus. Néanmoins, il avait perdu qu'un des leurs, un jeune homme, qui était tombé de fatigue à 200 pas du trou aux biches. Alors je demandais son nom. « René Saunier, me répondit-on. « Oh, mon frère, mon pauvre frère, attendez donc !» Je pris ma canne arrière et m'en allai sur la lande. René était là, qui tirait la langue à faire pitié. Je lui donnais ma gourde et le chargeais sur mes épaules, mais Les républicains arrivaient, Saint Jésus. Oh, nous l'avons échappé belle, heureusement que ma gourde avait ranimé René. Il fila, et je restai pour couvrir sa fuite. Mon excellent homme, s'écria Sainte en prenant la main de Jean. Attendez donc. Ce fut l'affaire de 10 minutes. Les Bleus n'avaient plus de munitions. J'en ai été quitte pour quelques coups de crosse et j'ai la tête dure, aida. Le lendemain, ce fut une autre fête. Nous sortîmes du trou aux biches avant le jour pour surprendre les Bleus. Nous les trouvâmes endormis. Votre père était là, mademoiselle. Mon Dieu, qu'allez-vous m'apprendre, murmura ça. Attendez donc. Il eut le temps de s'armer et vint à notre rencontre comme un brave homme qu'il est, quoique pâteux. Il se trouva en face de M. de Vauduit, son ancien camarade. Voyez-vous, mademoiselle, dans ces genres de français, ces guerres de français à français, il n'y a pas d'amitié qui tienne. Souvent même l'idée qu'on a devant soi un ami vous pousse et vous met le diable au corps. Vauduit est maître en fait d'armes. Il reçut votre père, ferme sur la hanche, et allait l'embrocher lorsque je l'ai terrassé d'un coup de crosse, priant le citoyen, votre père, d'aller voir à 2 lieues de là si j'y étais par hasard. Eh ben voilà. Quoi ? Sauvés tous deux, sauvés par vous, dit Sainte qui fondit en larmes. Oh, que faire pour vous prouver ma reconnaissance ? Voulez-vous me rendre bien content ? Dit Brandt qui se sentit rougir sous le cuir bronzé de sa joue. Parlez, que faut-il faire ? Brandt ouvrit ses bras. Embrassez-moi, mademoiselle Sainte, mais là, bien comme il faut, hein. Comme une bonne fille embrasse son vieux père. Sainte se jeta à son cou. Le bedeau souriait et pleurait en même temps. Merci, dit-il. Ah, maintenant je vous dis pas au revoir, mademoiselle Sainte, car je vous verrai plus. J'ai frappé mon officier. Ah, nous avons nous aussi une discipline. Adieu. Sainte ne comprit pas tout d'abord, mais bientôt la réalité lui parut tout entière. « Mais ils vont le fusiller !» s'écria-t-elle en courant sur les pas du bedeau. « Brande, Jean Brande, restez avec moi !» Mais le choix n'était déjà plus à portée de l'entendre. Chapitre 8 Le rêve. Les chouans de Saint-Yon étaient à l'agonie. Un dernier coup devait les détruire ou les disperser. M. de Vauduit, seul officier restant, disposa ses hommes pour une suprême bataille. Il ne leur cacha point l'immense imminence du danger. À quoi bon ? Ils étaient préparés à mourir. Quand Vauduit se fut attiqué et acquitté de ses devoirs de soldat, il entra dans la cellule de Marie. « Mademoiselle, dit-il, 2 chevaux sont scellés. Ils vous attendent au pied du menhir. Un de mes hommes vous accompagnera jusqu'à Vannes, où j'ai fait retenir votre passage sur un brick qui part pour Falsemouth. Il faut nous séparer. » Marie secoua l'engourdissement du désespoir où l'avaient plongé les défaites successives de ses compagnons. « Vous êtes donc bien sûr de vaincre ?» dit-elle en se redressant tout à coup. « Hélas, mademoiselle, nous sommes sûrs de mourir. »« Et vous voulez me renvoyer à l'heure du péril ?»« Vauduit, cela n'est pas d'un serviteur loyal. »« Puisque la race des Rieux doit s'éteindre avec moi, qu'elle s'éteigne noblement et sur un champ de bataille. » Vauduit voulut faire des représentations. « Mais je le veux !» s'écria Marie. L'ancien intendant s'inclina jusqu'à terre et sortit à reculons. Comme il sortait, il rencontra Jean Brand. « Bedeau, mon ami Bitty, pourquoi es-tu revenu ?»« J'avais donné ma parole. Mais une parole est quelque chose, mais la vie est davantage. » « Tu m'as frappé, tu dois mourir, mais c'est pas une chose dérisoire. que de fusiller un brave tel que toi, la veille de notre mort à tous. Cela vous regarde, dit froidement Jean Bran. Vous m'avez laissé 24 heures pour aller jusqu'à Saint-Yon, où j'avais à remplir un devoir. Ce devoir est rempli, ben voilà. Jean Bran, mon ami, répondit Vauduit avec une égale froideur. Ce que tu fais là est peut-être fort beau, mais mademoiselle et toi, vous êtes les deux plus grands fous que je connaisse. Puis il ajouta en bâillant, « Reste, si cela te plaît, va-t'en si tu veux. Demain, au point du jour, si tu es encore là et qu'on est en perte, bien on te fusillera. » Et puis, il s'enfonça dans son manteau et s'endormit. L'excès du péril peut-il donc tuer à l'avance, comme un feu trop violent brûle de loin ? Murmura Jean Bran. Cet homme n'a plus ni espoir, ni crainte, ni tendresse, ni haine. Son cœur s'est fait pierre, il est mort déjà. Puis, profitant de la permission donnée, il saisit la canardière et s'éloigna lentement, résolu à partager le lendemain le sort de ses compagnons d'armes. Saint était rentré dans la cabane. La pensée du sort qui attendait Jean Bran gâtait sa joie. Cette joie elle-même, d'ailleurs, n'était point sans mélange. Le citoyen Saulnier et René vivaient. Ils avaient échappé tous deux comme par miracle aux affreux dangers de cette guerre extermination. Mais ils allaient se trouver en présence. Le médecin bleu savait-il que son fils était revenu ? René lui-même n'ignorait-il point que son père combattait en qualité de volontaire dans les rangs des républicains ? Le hasard ne pouvait-il pas les rapprocher dans la mêlée ? À cette cruelle idée, Sainte, tremblant de tous ses membres, se sentait mourir. Et comme il arrive dans ces occasions, plus l'idée était terrible, plus elle était tenace, obsédante, tyrannique, impossible de la fuir ou de la chasser. La nuit était venue. Sainte, assise près de sa lampe, la joue pâle, les yeux fixes et mornes, voyait sans cesse devant elle une effrayante vision et ne songeait point à dormir. Les heures de la nuit passèrent lentement, l'une après l'autre. La jeune fille veillait toujours. Enfin, les premières lueurs du matin firent pâlir les rayons de la lampe. Sainte, exténuée de fatigue, engourdie par l'angoisse, ferma les yeux et le sommeil vint la surprendre. Elle dormit bien longtemps. Depuis plus de 6 heures, le soleil avait franchi la ligne de l'horizon et répandait à flots sa lumière. Sainte dormait encore. Mais ce soleil, fiévreux, plein de tressaillements et de rêves, n'était point de ceux qui reposent. Sainte voyait passer devant ses yeux des images terribles et grotesques à la fois. Le cauchemar oppressait sa poitrine. Des voix lugubres criaient des plaintes à son oreille et sous ses pieds grouillait une eau impure où il y avait du sang. Puis son rêve prit un enchaînement logique et affecta les allures de la réalité. Alors ce fut horrible. Sainte se voyait sur la lande, non loin de ce sauvage amphithéâtre que nos lecteurs connaissent déjà sous le nom de Trou aux Biches. Elle entendait, çà et là, des coups de feu derrière les ajoncs, mais elle n'apercevait rien. Tout à coup, au détour de l'un des 1000 sentiers qui marbrent la lande, elle vit 2 hommes arrêtés face à face. L'un était un jeune homme, l'autre un vieillard. « Vive la République !» dit le vieillard. « Dieu est le roi !» répondit le jeune homme. 2 sabres furent dégainés et un combat furieux s'engagea. Le jeune homme était René Saulnier, le vieillard était le médecin bleu. « Mon père, mon frère !» voulait crier Sainte. Mais le cauchemar collait sa langue à son palais, Elle ne pouvait produire aucun son. Et le hideux combat se poursuivait toujours. Sainte fit des efforts inouïs pour se précipiter entre eux. Mais le cauchemar paralysait ses jambes et ses pieds étaient devenus de plomb. Chapitre 9 et dernier. Les intérêts de la dette de Jean Bran. Au moment où Sainte rêvait ainsi, c'est-à-dire vers 5 heures du soir, les pauvres chouans du trou aux biches étaient fort malmenés. M. de Vauduit et bien d'autres encore étaient morts, en vendant comme il faut leur vie. Il n'y avait plus à tenir que le petit corps de Vendéens arrivé recommençamment en Bretagne. On se battait dans la forêt de Rieux, et l'ombre des grands arbres ajoutant à l'obscurité croissante, on se frappait, pour ainsi dire, au hasard et sans se reconnaître. Ainsi le rêve de la pauvre Sainte se réalisa. Les deux sauniers, le père et le fils, se rencontrèrent dans l'ombre et ne se reconnurent point. Le médecin bleu, ardent et passionné comme toujours, sous une apparence de froideur, était affolé par la fièvre du combat et frappait avec frénésie. René, sans espoir de vaincre, voulait du moins mourir vengé. C'était un duel à mort qui allait avoir lieu. Mais à l'instant où les sabres se croisaient, cherchant un passage et menaçant à la fois la poitrine des deux assaillants, un homme se précipita entre eux. « Bas les armes !» cria-t-il d'une voix brisée. Et en disant ces mots, il tomba pesamment sur la mousse de la forêt. La lune, à ce moment, se faisant jour, au travers des hauts chênes, tomba d'aplomb sur nos trois personnages. Les deux sauniers se reconnurent et jetèrent leurs sabres. René se mit à genoux. « Voilà donc où tu devais en venir !» s'écria le médecin bleu avec amertume. « Taisez-vous un petit moment, monsieur Saunier, » dit l'homme qui avait mis fin au combat. « Me reconnaissez-vous ?»« Jean Bran !» s'écrièrent en même temps le père et le fils. « En propre original, approchez-vous, docteur, car je sens que je m'en vais. » « Êtes-vous donc blessé ?» interrompit Saunier. « Mieux que cela, docteur, et tout vos remèdes n'y feraient rien. Si donc, écoutez-moi, je vous ai sauvé la vie hier. Oh, je le sais. M'interrompez pas. Ouais. Or, si je vous ai sauvé la vie, ce n'était pas par tendresse pour vous, monsieur Saunier, car je vous ai toujours détesté du mieux que j'ai pu. C'était pour votre fille. » « Quant à toi, René, je t'ai sauvé aussi. Mais tu es un bon garçon, et je te tiens quitte. »« Quel prix mettez-vous au service que vous m'avez rendu ?» demanda le docteur. « Mettez-vous du prendre, donc, en doute de cela, docteur. Je viens de vous empêcher de vous mettre entre tuer votre fils et vous, ce qui était désagréable, même pour un bleu, excusez-moi, pour ces deux services. » « Oh, je réclame qu'une chose. »« Parlez. » La voix de Jean Bran s'affaiblissait graduellement. Il reprit pourtant avec effort. « Monsieur Saunier, la guerre est finie. Il n'y a plus de choix à Saint-Yon. Je suis le dernier. Et dans 2 minutes, j'aurai rejoint mes frères. Embrassez votre fils, monsieur Saunier. » « Cela fera plaisir à Mademoiselle Sainte, et je mourrai content. » Le docteur hésita un instant. « Mais dépêchez-vous, » murmura le Benoît. « Si vous voulez que je voie ça, mais dépêchez-vous. » « Il ne sera pas dit que j'ai refusé la dernière demande d'un homme qui m'a sauvé la vie, » s'écria le docteur Saunier. Et il tendit les bras à son fils, qui s'y jeta en pleurant. « À la bonne heure !» dit Jean Bran d'une voix si éteinte qu'on pouvait à peine l'entendre. « Mademoiselle Sainte sera bien contente. Il est fièrement payé ma dette, principale et intérêt. Vers 7 heures, la porte de la cabane s'ouvrit. Sainte ferma les yeux instinctivement et se recula comme pour ne point voir ou entendre la confirmation de cette erreur. Mais deux voix connues prononcèrent en même temps son nom, et elle se trouva dans les bras de son père et de son frère. Derrière eux était entré l'abbé de Kernas. « Monsieur Saunier, dit-il, remerciez Dieu d'avoir mis cet ange dans votre maison. Au milieu de ces luttes insensées, elle a pratiqué la loi du Seigneur, et le Seigneur l'en a récompensée dans ce qu'elle aime. Vous, sainte, ajouta-t-il en mettant un baiser au front de l'enfant, persévérez. Le rôle que vous avez pris, ma fille, a appelé sur ce qui vous entoure la miséricorde céleste. Adieu. Quoi qu'il arrive, soyez toujours au milieu des luttes politiques l'ange de la paix, de la conciliation et de la pitié. » Ne restez-vous point avec nous ? Demanda René. Mon fils, répondit le prêtre, on se bat encore dans d'autres parties de la Bretagne. Je vais aller prêcher et consoler. Quand il n'y aura plus de malheureux à secourir au loin, je reviendrai. Il fit un pas vers la porte. Sainte courut à lui. Et Marie ? Demanda-t-elle. Une larme mouilla les yeux du prêtre. C'était, répondit-il lentement, la fille des Rieux, ses chevaliers à lame de fer. Elle avait le cœur de ses pères. Elle est morte comme eux. Morte ? Répéta Sainte en pleurant. Morte en criant. Dieu est le roi !